VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 11 avril 2022. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, une trentaine de personnes ont été tuées depuis hier dans des attaques en Ituri, selon la Croix-Rouge locale. Incarcération au Niger de l'ex-ministre de l'Intérieur, Ousmane Cissé, accusé d'être impliqué dans deux tentatives de coup d'État. En France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont repartis en campagne pour s'affronter au second tour de la présidentielle le 24 avril. En Ukraine, les séparatistes disent avoir conquis la zone portuaire de Mariupol. Vladimir Poutine a reçu au Kremlin le chancelier autrichien Karl Nehammer. Après le journal, ce sera la Minute Écho et les sports. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, une trentaine de personnes ont été tuées hier et aujourd'hui dans des attaques de villages en Ituri attribuées aux rebelles ADF selon des sources locales. Depuis dimanche, les rebelles s'en sont pris à la population dans deux villages des alentours de Komanda. Il s'agit de Mangoussou où 17 civils sont morts, de Chori Moya où il y en a eu 9 et au niveau d'un pont sur la rivière Ituri où les assaillants ont tué 4 personnes, a détaillé David Beiza, président de la Croix-Rouge du territoire d'Irumu. Le président rwandais Paul Kagame est en visite officielle de 3 jours à Brazzaville. Il a déclaré devant le Parlement congolais que la lutte contre les groupes armés nécessitait une collaboration constante dans la région des Grands Lacs. Des accords de coopération doivent être signés demain entre M. Kagame et Denis Sassou Nguesso. Tous deux se rendront ensuite à Oyo, dans le nord, fief du président congolais, pour visiter des fermes. Au Niger, l'ancien ministre de l'Intérieur Ousmane Cissé a été écroué vendredi. Il est accusé d'être impliqué dans 2 tentatives de coup d'État, dont celle de mars 2021. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ousmane Cissé a été convoqué vendredi à la gendarmerie, puis entendu plusieurs heures par un juge qui l'a placé sous mandat de dépôt. Une source pénitentiaire a confirmé que l'ex-ministre a été incarcéré dans une prison à Birni-Ngaouré, à une centaine de kilomètres au sud de Niamey. On ignore les charges qui ont été retenues contre lui ou le rôle qu'il a pu jouer dans les 2 putschs avortés. Le 31 mars 2021, le gouvernement nigérien avait annoncé l'arrestation de plusieurs personnes après une tentative de coup d'État, 2 jours avant la prestation de serment de l'actuel président Mohamed Bazoum. Le cerveau présumé de cette tentative de coup d'État, Sani Gourouza, un capitaine de l'armée de l'air, avait été arrêté en avril 2021, au Bénin voisin et remis aux autorités nigériennes. L'arrestation d'Ousmane Cissé est également en lien avec un dernier coup d'État déjoué en mars 2022, alors que le président Bazoum se trouvait en Turquie, a fait savoir à l'AFP un officiel nigérien, sans plus de précision. Les autorités n'ont pas communiqué publiquement sur ce deuxième putsch manqué.
Au Nigeria, le vice-président Yemi Osinbajo se lance dans la course à l'élection présidentielle de février 2023 dans l'espoir de succéder à Muhammadu Buhari qui a effectué 2 mandats. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Élu vice-président en 2015, Yemi Osinbajo est candidat à la primaire du parti au pouvoir, le All Progressive Congress.
Je déclare officiellement aujourd'hui, avec la plus grande humilité, mon intention de me présenter au poste de président de la République fédérale du Nigeria par la voie de notre grand parti, le All Progressive Congress.
En cas de victoire, l'avocat de 65 ans promet de poursuivre les politiques et les programmes du président Muhammadu Buhari. Le parti au pouvoir APC désignera son candidat à l'issue d'une primaire qui doit se tenir d'ici le mois de juin. Le leader de l'APC et ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinubu, est candidat, de même que le ministre des Transports, Rotimi Ameichi, et le gouverneur de l'État de Kogi, Yahaya Bello. Le vainqueur affrontera celui qui émergera du principal parti d'opposition, le People Democratic Party. L'ancien vice-président Atiku Abubakar a annoncé le mois dernier sa candidature sous la bannière de ce parti.
L'Union européenne a décidé d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée et la garde nationale au Mali, mais va rester au Sahel et se déployer dans les pays voisins, a annoncé le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell à l'issue d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union au Luxembourg. Par ailleurs, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, se rend ce soir au Mali où elle doit rencontrer le chef de la junte, Assimi Goïta, alors que le Bénin envisage de retirer ses soldats du pays. Ce déplacement prévu jusqu'à samedi l'emmènera aussi au Niger, pays clé dans le redéploiement des forces militaires internationales au Sahel. En Afrique du Sud, les violences contre les étrangers par des groupes d'autodéfense s'apparentent à celles du régime d'apartheid, a estimé le président Cyril Ramaphosa. Les incidents violents contre les étrangers sont fréquents. La semaine dernière, un jeune Zimbabwéen a été lynché et brûlé par une foule dans le township de Diepsloot à Johannesburg. Des personnes sont interpellées dans la rue par des citoyens et forcées à présenter des documents d'identité pour justifier leur statut, note le président Ramaphosa dans sa lettre d'information hebdomadaire, rappelant que les oppresseurs de l'apartheid opéraient de cette manière. Le premier ministre italien Mario Draghi, s'efforçant de réduire la dépendance énergétique de son pays de la Russie, a annoncé ce lundi lors d'une visite à Alger un accord avec l'Algérie pour l'augmentation de ses exportations de gaz vers la péninsule. L'Algérie, l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Italie, est son deuxième fournisseur en gaz derrière la Russie, dont proviennent 45% des importations gazières de la péninsule.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen s'affronteront le 24 avril pour le second tour de la présidentielle. Ils sont tous deux repartis en campagne sur le terrain pour aller chercher les voix des électeurs, notamment à gauche. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
En déplacement à Denain dans le Nord, un fief de l'extrême droite, Emmanuel Macron a été interpellé sur un de ses projets phares controversés, le report à 65 ans de l'âge de la retraite. Entré tardivement en campagne en raison de la guerre en Ukraine, M. Macron devrait être beaucoup plus présent sur le terrain d'ici le second tour. Madame Le Pen est dans Lyon, dans le centre, ce lundi, avec comme thématique pouvoir d'achat et inflation, conséquences sur les agriculteurs. Monsieur Macron et Madame Le Pen ont absolument besoin d'élargir leur base électorale. Les deux camps ont utilisé la même formule de tendre la main, en particulier aux électeurs de Monsieur Mélenchon, arbitre du second tour. Sans appeler à voter Macron, ce dernier a exhorté dimanche soir ses partisans à ne pas donner la moindre voix à Madame Le Pen. L'enjeu va aussi être de mobiliser les électeurs alors que le premier tour a été marqué par une forte abstention de plus de 25% et une désagrégation spectaculaire des deux partis historiques français, le Parti socialiste et la droite républicaine.
Le chancelier autrichien Karl Nehammer s'est dit plutôt pessimiste après sa rencontre au Kremlin avec le président russe Vladimir Poutine, qui est, selon lui, dans une logique de guerre et veut enregistrer un succès militaire en Ukraine. Jacques Aristide nous en dit plus.
Pour l'Autriche, il faut saisir toutes les occasions de mettre fin à l'enfer humanitaire. Le gouvernement autrichien est également d'avis que Vladimir Poutine est en train d'isoler la Russie, qu'il perdra cette guerre sur le plan moral et qu'il fait tout ce qui peut être fait de mal. Pour sa part, le chef de la diplomatie européenne accuse la Russie de provoquer la faim dans le monde en détruisant les stocks de blé en Ukraine et en empêchant de l'exporter à l'étranger. Il provoque la pénurie, il bombarde des villes ukrainiennes, a déclaré Josep Borrell à la fin d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Luxembourg aujourd'hui. L'invasion russe de l'Ukraine était également au menu d'un échange virtuel aujourd'hui entre le président américain Joe Biden et le premier ministre indien Narendra Modi au moment où la relation entre Washington et New Delhi traverse une phase de flottement liée au positionnement très prudent de l'Inde face à cette guerre. Sur le terrain, des séparatistes pro-russes affirment avoir conquis la zone portuaire de la ville de Mariupol, assiégée depuis plus d'un mois.
Aussi, les forces russes se renforcent autour du Donbass et notamment près de la ville stratégique d'Izium, mais n'ont pas encore entamé leur offensive pour prendre le contrôle total de cette région de l'est de l'Ukraine, a indiqué le Pentagone. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gipour.
Les assemblées annuelles 2022 du groupe de la Banque africaine de développement auront lieu à Accra, au Ghana, du 23 au 27 mai. Après 2 années de réunions en visioconférence, les assemblées annuelles se tiendront dans un format hybride avec des participants en session présentielle à Accra et d'autres en ligne. Le thème des assemblées annuelles 2022 est « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ». En République démocratique du Congo, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a annoncé que le pays avait réalisé 1 433,5 milliards de francs CFA de recettes cumulées en mars. Par ailleurs, le mois de mars a été marqué par une hausse de dépenses due aux subventions accordées aux sociétés pétrolières pour la gestion de la crise du carburant consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Face à cette situation, le Premier ministre Sama Lukonde a recommandé une prudence dans la gestion des dépenses publiques. Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a renoncé à siéger au conseil d'administration de Twitter, a annoncé le directeur général du réseau social. L'homme le plus riche du monde avait annoncé début avril qu'il avait pris une participation de 9,2% dans le capital de Twitter, faisant de lui le premier actionnaire.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer avec le début des matchs de poule de la conférence Nil au Caire en Égypte. Nous parlons bien évidemment de la Basketball Africa League. Pas de match aujourd'hui. Toutes les équipes de cette conférence ont effectué leurs premières apparitions le week-end écoulé. Et ça commence bien pour les Camerounais de FAP qui ont pris le meilleur sur les Congolais d'Espoir Foukache, 77-60. Belle entame aussi des Angolais de Petro de Luanda qui ont largement dominé les Sud-Africains de Cape Town Tigers 90-61, tout comme le Zamalek tenant du titre qui a battu les Soudanais du Sud de Cobra Sport 80-63. Comme pour la conférence Sahara, ces 6 formations se disputent les 4 tickets à prendre pour la phase finale prévue en mai à Kigali au Rwanda. Ici en NBA, Brooklyn vainqueur d'Indiana 134-126, a assuré sa 7e place à l'Est, synonyme d'avantage du parquet en barrage qualificatif pour les playoffs. Les Nets recevront donc Cleveland demain au Barclays Center. S'ils s'imposent, ils joueront le premier tour des playoffs contre les Celtics, qui se sont imposés à Memphis 139-110. Dallas, qui a battu San Antonio 130-120, sera opposé à Utah, facile vainqueur de Portland 111-80. Golden State a fini 3e en s'imposant à la Nouvelle-Orléans, 128-107. En play-off, les Warriors affronteront Denver au premier tour. NBA toujours, les Los Angeles Lakers ont limogé leur entraîneur Frank Vogel au terme d'une saison 2021-2022 décevante, rapporte la presse américaine. Vogel, en poste depuis 2019, était sous contrat avec les Lakers jusqu'en 2022-2023. Dès son arrivée, il a conduit les Lakers au titre NBA en 2020, le 17e de leur histoire et le premier depuis 2010. LeBron James et ses coéquipiers ont ensuite enchaîné 2 saisons très décevantes, élimination au premier tour des playoffs en 2020-2021 et 11e place de la saison régulière cette année. Football, et nous parlons de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L'ancien international Didier Drogba a déposé hier son dossier de candidature, accompagné d'une foule acquise à sa cause. L'ancien capitaine des éléphants fera face, entre autres, à Idriss Diallo et Sori Diabaté. Lors de cette élection qui regroupe 6 candidats, la campagne débute le 16 avril et le vote est prévu le 23 avril à Yamoussoukro. Le français Corentin Martins est le nouveau sélectionneur de la Libye. L'annonce est faite par la Fédération libyenne de football. Recruté pour 1 an, Martins doit préparer les qualifications pour la CAN 2023, dont le tirage au sort a lieu le 19 avril, et celle pour le CHAN, réservée aux joueurs évoluant sur le continent africain. Martins a dirigé les Mourabitoun de la Mauritanie de 2014 à 2021. Il les a qualifiés deux fois à la CAN sans disputer la deuxième à la tête de son équipe.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, face aux conséquences de l'orpaillage illicite sur la population et l'environnement, des universitaires ont décidé de former un partenariat avec les orpailleurs pour une prise de conscience et une amélioration du secteur. Un reportage de notre correspondante Aïcha Diarra.
Une visite sur le site de la société coopérative Espoir Mining à Diokano dans le département de Toumoudi dans le centre de la Côte d'Ivoire. Universitaires et orpailleurs se donnent la main pour tenter de surmonter les difficultés dans ce secteur. Professeur Kwaku Alphonse Yao est directeur de l'école supérieure des mines et de géologie à Yamsoukro.
Notre capacité à fabriquer des appareils qui sont adaptés aux petites mines. Donc ces appareils qu'ils acquièrent de façon chère à l'étranger, avec les problèmes de douane et tout ça à l'arrivée, nous, on peut les fabriquer ici, en grand nombre, à moindre coût, et c'est à leur avantage.
Selon Bomba Zakari, président du syndicat national du groupement des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire, GPMICI, le secteur d'activité de l'orpaillage a depuis longtemps travaillé de façon anarchique et archaïque, sans assistance scientifique, ce qui a constitué leur véritable handicap.
C'est ce qui a fait que, effectivement, les manquements que nous avons eus, tels que le déguerpissement, la pratique illicite de l'activité minière en Côte d'Ivoire.
Le programme national de rationalisation de l'orpaillage a été initié en 2013 avec l'objectif de réprimer l'orpaillage illicite et de formaliser le secteur à travers un processus de formation d'artisans miniers par le projet des chantiers écoles. Il fallait trouver des cadres d'échange et de travail entre universitaires et orpailleurs. La dernière rencontre remonte à février 2022 et le thème abordé était la mise en œuvre de stratégies pour une gestion responsable de la petite mine en Côte d'Ivoire. C'était à Yamsoukro, à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le ministre ivoirien des Mines et de l'Énergie,
cette initiative vient à point nommé pour accroître les possibilités d'assainir le secteur minier à petite échelle et ainsi contribuer à faire de la petite mine l'un des leviers de vitesse du développement du secteur et une source d'espoir inouïe pour la jeunesse qui pourra y trouver des raisons satisfaisantes, suffisantes, de croire en un avenir meilleur.
Aussi, la destruction de l'environnement par l'orpaillage devait être une vieille histoire, selon le professeur Alphonse Kwaku Iyao.
On a des entreprises avec lesquelles on peut interagir pour favoriser la mise en stage de nos étudiants et puis développer certains axes de recherche, notamment sur les problèmes de dépollution, de médiation sur les sols qui ont été pollués ou bien les cours d'eau. Et puis aussi, on prend quelque part notre responsabilité et on les invite à y participer. On prend conscience ensemble de la fragilité des cours d'eau, des sols et des écosystèmes.
Selon le ministre Omar Camara, 195 autorisations d'exploitants minières ont été signées à ce jour et 12 chantiers écoles ont été installés à travers le pays. Des milliers d'artisans ont été formés et recrutés par des entreprises minières. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a comparé les actes de violence et d'intimidation commis par des groupes d'autodéfense anti-immigrés aux tactiques qui étaient utilisées par le régime d'apartheid. Ces dernières semaines, les attaques contre les étrangers se sont multipliées dans le pays. Jean-Roger Bion a joint André Thomashausen, professeur émérite à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Il a la responsabilité pour l'état de droit. Et évidemment, des groupes autonomes qui se autoproclament comme ayant le pouvoir d'exécuter des volontés politiques avec la violence, n'importe quel pays ne pourra pas tolérer ça. Alors évidemment, il ne veut pas une confrontation sanglante entre ces groupes autonomes et la police. Et ainsi, il a fait un appel politique pour que les gens soient un peu plus raisonnables, qu'ils respectent la loi et arrêtent avec des initiatives qui sont un peu choquantes. Où il y a une émeute de gens qui identifient un étranger sans vérifier si c'est un étranger régulier ou un étranger approuvé, ils l'assomment et ils essaient de le chasser et de lui voler ses biens. Alors ça, c'est la xénophobie. On a eu beaucoup d'attaques xénophobes en Afrique du Sud dans le passé, dans le temps du président Zuma, pas toujours été déplorable. Les gens ont été brûlés vivants quand on retourne à ces excès.
Alors, est-ce que ce coup de poing sur la table du président annonce des actions concrètes contre ces groupes?
Je pense que oui. Le leader autoproclamé de ce groupe, qui d'ailleurs est un personnage influent dans la faction de gauche du parti ANC, il a été arrêté par la police. Il a été mis en investigation et probablement une procédure légale. Évidemment, ce développement est une réflexion des tensions, des contradictions ici dans le pays. Le pays n'a jamais appliqué correctement ses lois d'immigration. Et est en chômage, il n'a plus de travail. Alors, en fonction des crises de Covid, mais aussi la baisse économique généralisée, a vraiment créé une situation extrêmement tendue et difficile pour les Sud-Africains. Et il est clair plus qu'il y a tellement d'étrangers qui réussissent à avoir du travail, parce qu'ils travaillent avec des salaires inférieurs et qui bénéficient de toute la force des institutions ici en Afrique du Sud. Et il faut absolument que le gouvernement trouve une façon de repartir les immigrés illégaux et de trouver une façon de les répatrier sans violation de leurs droits fondamentaux.
André Thomashausen est professeur émérite de droit international à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. France, ce sera un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle, comme en 2017. Pour le premier tour dimanche, le président sortant a recueilli 27,85% des suffrages contre 23,15% pour la candidate de l'extrême droite. Les partis traditionnels de la droite et de la gauche se sont effondrés. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Paris la journaliste Marie-Roger Biloa.
Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé troisième, aurait pu être au second tour parce qu'il y a eu, là, vers la fin de la campagne, une grande, grande mobilisation pour un vote subtil. C'est-à-dire les électeurs de gauche se sont dit que, et je dirais c'était à l'appel de Christiane Taubira, ils se sont dit ce serait pas, il ne faut pas se résoudre à avoir encore la même affiche Macron-Le Pen. Et il s'en est fallu de très peu.
Alors, l'écart en 2017 était très large au second tour entre les deux, 66% contre 33%. Cette fois, les sondages prévoient un second tour beaucoup plus serré. Qu'est-ce qu'il explique selon vous?
En 2017, Macron était nouveau. Il y a l'effet jeune homme dynamique bien sous tout rapport. Il faut dire qu'il se détachait un peu d'une affiche où Fillon, qui était un candidat par défaut, a été affaibli par ses affaires. Et donc, il a bénéficié d'un concours de circonstances qui l'a amené donc déjà au deuxième tour. Et face à Marine Le Pen, le débat entre les finalistes a été fatal pour Marine Le Pen, qui s'est révélée totalement impréparée et puis amateur au point. Alors, entre les deux choses, entre 2017 et 2022, il y a eu déjà le mandat de Macron lui-même qui a connu pas mal de difficultés, les gilets jaunes, certaines promesses non tenues, quand même des promesses phares, le fait que durablement, il a été perçu comme le candidat des riches, arrogant vis-à-vis des démunis ou ceux qui n'ont pas réussi, entre guillemets, matériellement. Et il avait beau faire et prendre certaines réformes pour essayer de corriger ça. C'est une image qui lui colle à la peau et il s'est fait des haines. Et de l'autre côté, Marine Le Pen a compris qu'il faut lisser son langage, qu'il faut parler autrement et la presse la présente comme dédiabolisée, comme si son fond idéologique avait fondamentalement changé, ce qui n'est pas le cas. Et puis cette année, en plus, on a eu Zemmour qui, idéologiquement, lui a prêté main forte quand même. Oui.
L'électorat de gauche, est-ce qu'il est acquis d'avance à Emmanuel Macron, puisque beaucoup estiment que pour son premier mandat, il a plutôt gouverné un peu plus à droite?
Eh bien oui, l'électorat de gauche ne lui est pas du tout acquis.
Quelle lecture l'Afrique devrait faire de ce premier tour, mais également de l'électorat français d'origine africaine?
Déjà l'électorat français d'origine africaine, selon un sondage récent, montrait qu'il votait d'abord pour Mélenchon. Macron arrivait quand même en deuxième, mais en troisième position, c'était Le Pen, c'est quand même extraordinaire.
La journaliste Marie-Roger Biloa était jointe à Paris.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la guerre menée par la Russie dans son pays met en danger toute l'Europe. Les puissances occidentales accusent les soldats russes de crimes de guerre pour des atrocités présumées. Un reportage d'Arash Arabassadi de La Voix de l'Amérique, récit de Jacques Aristide.
Moscou maintient ne cibler que des installations et des forces militaires, mais des images vérifiées brossent un tableau différent. Des dizaines de civils ont été tués la semaine dernière dans une attaque perpétrée contre la gare de la ville ukrainienne de Kramatorsk. La Russie a nié toute responsabilité, accusant l'Ukraine d'avoir fomenté un acte de provocation. À Boutcha, des corps gisant dans une rue ont récemment été découverts après la libération de la ville. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, lors du programme This Week de la chaîne ABC hier.
There was a plan from the highest levels of the Russian government.
Il y avait un plan au plus haut niveau du gouvernement russe pour cibler les civils qui allaient s'opposer à l'invasion, pour mener des violences contre eux, pour organiser des efforts en vue de les brutaliser afin d'essayer de terroriser la population et de la subjuguer.
Pour le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky, l'agression russe qu'il qualifie de génocide menace l'avenir de l'Europe. Les pays européens demeurent des partisans indéfectibles de l'Ukraine, mais achètent toujours une grande partie de leur énergie de la Russie. L'élue républicaine Liz Cheney s'est exprimée à ce propos hier dans l'émission State of the Union de CNN.
We need to do everything we can to increase our own domestic production.
Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour augmenter notre propre production nationale afin de nous assurer que nous pouvons leur en fournir autant que possible. Mais ils doivent comprendre que chaque fois, chaque jour qu'ils continuent d'importer du pétrole et du gaz russe, ils sont en train de financer le génocide de Poutine en Ukraine.
They're funding Putin's genocide in Ukraine.
Les Ukrainiens qui ont pu fuir la guerre continuent d'arriver en grand nombre en Pologne. Beaucoup d'autres, en revanche, sont toujours piégés dans des endroits comme la ville portuaire assiégée de Mariupol. Pascal Hunt, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine, en a parlé sur Sky News.
We went there with buses, we moved.
Nous y sommes allés avec des bus, nous avons essayé d'avancer encore et encore. Mais malheureusement, la situation autour de Mariupol était trop dangereuse. Les conditions de sécurité n'étaient pas bonnes. Les garanties de sécurité que nous avons obtenues n'étaient pas bonnes. Donc, environ 20 kilomètres de Mariupol, nous avons dû rebrousser chemin.
We had to go back.
Au chapitre diplomatique, tête à tête aujourd'hui entre le président Vladimir Poutine et le chancelier autrichien Karl Nehammer, premier dirigeant européen reçu au Kremlin depuis le début de la guerre en Ukraine. Un entretien autour des corridors humanitaires, mais Vienne dit ne pas attendre de miracle.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagno. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée.